Vous écoutez un podcast RTL Originals.
Ils sont avocats, enquêteurs, proches de victimes des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Nous sommes Nathalie Renoux, Amandine Bégaud, Jacques Pradel et Jean-Alphonse Richard. Et dans chaque épisode, nous recueillerons la parole d'un témoin clé qui racontera une affaire de son point de vue. Octobre 1977, Agnès Leroux, héritière de l'un des plus grands casinos de France, disparaît. Son corps n'a jamais été retrouvé. Pendant 37 ans, sa famille va se battre pour que son amant, l'avocat Jean-Maurice Agnelet, soit reconnu coupable de l'avoir assassiné. Mais l'homme clame son innocence. Alors, que s'est-il passé? Où et quand Agnès Leroux a-t-elle trouvé la mort? Je suis Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice de RTL, et j'ai couvert le procès de Jean-Maurice Agnelet. Dans cet épisode, la voix du crime est celle de Jean-Charles Leroux, le frère cadet de la victime. Il nous raconte le combat d'une vie. Jean-Charles Leroux, bonjour.
Bonjour.
Quand apprenez-vous la disparition de votre sœur Agnès Leroux? Où êtes-vous? Que faites-vous ce jour-là? Quel souvenir avez-vous de ce moment-là?
Il n'y a pas de date précise. En fait, on saura un peu plus tard qu'il s'agit du 2 novembre 77, le week-end de la Toussaint au cours duquel elle a disparu. Mais nous, sur le moment, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'à partir du mois de novembre, on n'a plus de nouvelles. On s'inquiète un petit peu. En même temps, c'est quelqu'un qui a 28 ans, qui est très indépendant, qui travaille, qui voyage beaucoup. Donc on s'inquiète modérément et on saura que bien plus tard qu'il s'agit d'une disparition et en plus d'une disparition criminelle. Mais il n'y a pas un jour où on se dit « tiens, elle a disparu ».
Où vit Agnès Leroux à ce moment-là? Elle est toujours au sein de cette famille Leroux à Nice?
Agnès vit à Nice, elle a un appartement à côté du port de Nice. Et voilà, elle vit sa vie de jeune femme de 28 ans, elle est divorcée, et donc voilà, elle vit sa vie. Alors, nous, on n'est pas loin, on habite Monaco. Moi, à ce moment-là, je suis à Paris, mais je suis en contact tout à fait régulier avec elle, parce qu'on est très attachés l'un à l'autre.
Qu'est-ce que vous savez finalement de sa vie à votre sœur? Vous êtes proche d'elle, mais vous dites qu'elle a été divorcée. Quelle a été sa vie jusqu'à présent?
Agnès s'est mariée assez jeune, et tout de suite, elle est partie avec son mari en Afrique, en Côte d'Ivoire, parce qu'il faisait son service militaire dans la coopération. Et elle, comme c'est quelqu'un de très actif, elle en a profité pour, je dirais, monter une affaire d'importation d'artisanat africain. Elle était très intéressée par cet artisanat africain. Elle-même était très douée avec ses mains, elle créait des bijoux, enfin c'était quelqu'un d'assez artiste. Elle est restée 2 ans là-bas. Et puis ensuite, elle a divorcé. Et là, elle s'est en effet rapprochée de nous, elle est venue habiter à Nice.
Quand est-ce que dans la famille Leroux, on se dit c'est pas normal, cette absence et se prolonge? Comment ça commence à monter?
Mi-novembre, on est quand même surpris, surtout moi en fait. On est surpris de pas avoir de nouvelles. Tout le monde est surpris que moi je n'ai pas de nouvelles, puisque je suis très proche d'elle, on s'appelle régulièrement. Alors, il est vrai aussi que Agnès, je la vois un peu moins, j'ai un peu moins de contact avec elle parce qu'elle a une relation avec un avocat qui s'appelle Maurice Agnelet, qui lui prend visiblement pas mal de temps.
Jean-Maurice Agnelet, c'est l'avocat de votre mère. Qu'est-ce que vous savez de lui?
Écoutez, assez peu de choses. Je sais que c'est un ami d'enfance d'un de mes beaux-frères, le mari de ma sœur Patricia. Je sais qu'il est avocat. J'ai pas beaucoup d'acquaintance avec lui parce que je trouve que en fait, il essaye de se rendre extrêmement sympathique à mes yeux, comme si on était intime alors que nous ne le sommes pas. Et donc, je dois dire que j'ai une attitude un petit peu réservée à son égard. J'ai pas une passion pour lui, mais bon, c'est l'ami de ma sœur et en tant que tel, je le respecte.
Donc c'est un personnage qui est omniprésent dans la vie de votre sœur.
Ah, il est totalement omniprésent, c'est clair. Il n'est plus l'avocat de ma mère parce qu'ils se sont fâchés, parce que visiblement il espérait avoir un poste extrêmement important. Il voulait raccrocher sa robe, il en avait marre d'être avocat. Il espérait avoir un poste important au sein du Palais de la Méditerranée, qui est quand même un établissement très important sur la promenade des Anglais, 3e casino de France. Simplement, ma mère n'avait absolument pas l'intention de le faire travailler. Ils se sont fâchés. Et là, à partir de ce moment-là, il s'est encore plus rapproché d'Agnès. Et c'est, de toute évidence, lui qui l'a convaincu de voter contre ma mère pour la destituer. Je pense que c'était une petite vengeance personnelle de sa part.
Il y a cet épisode, cette fracture, et cette guerre au sein de la famille. Agnès Leroux vote contre votre mère.
À l'époque, ma famille est propriétaire de 50% du casino du Palais de la Méditerranée, troisième casino de France. À côté, à environ 150 mètres, il y a un autre casino qui s'appelle le Casino Roule, qui est tenu par Jean-Dominique Frattoni, dont on dit qu'il est financé par la mafia italienne. C'est un casino ultra moderne, alors que nous, on est plutôt un casino ancien, mais justement qui a un charme fou à l'égard des gros joueurs. Et en fait, il aimerait bien nous éliminer pour récupérer toute cette clientèle. Donc, il nous fait des offres que ma mère refuse obstinément. Et le 30 juin 1977, il y a une assemblée générale qui doit statuer du renouvellement du mandat de président de ma mère. Et il se trouve que Agnès, qui est présente en tant qu'associée, comme tous les enfants, ce jour-là, vote contre ma mère, ce qui correspond à sa destitution immédiate. Et c'est Jean-Dominique Frattoni qui Il n'est pas élu PDG, mais il est nommé par un nouveau PDG qui est un de ses amis, contrôleur général de tous les services. Et donc, en gros, voilà, elle donne le pouvoir à Frattoni. Et on se retrouve dans cette situation où ma mère est virée au profit de Jean-Dominique Frattoni, qui n'a qu'une seule idée, c'est de fermer le Palais de la Méditerranée pour récupérer toute sa clientèle dans son casino.
C'est-à-dire que Agnès a vendu son vote, c'est bien ça?
Le soir du vote, qui a été un schisme quand même assez considérable, le soir du vote, moi j'ai dîné avec elle parce que justement je voulais avoir des explications. Et en fait, elle m'explique que la guerre que mène ma mère vis-à-vis du rôle, on ne gagnera jamais. Et donc là, elle a donc voté contre nous, elle a vendu les actions qu'elle détient au titre de la succession de mon père dans le Palais de la Méditerranée, et elle m'engage moi-même, comme mes sœurs, à prendre contact avec Frattoni pour faire exactement la même opération qu'elle. Parce que ma mère refusait obstinément de vendre le Palais de la Méditerranée, elle, les casinos ne l'intéressaient pas du tout, et donc elle préférait s'en débarrasser et vivre sa vie tranquillement.
Est-ce qu'à ce moment du vote qui va créer vraiment cette guerre au sein de la famille, est-ce que apparaît l'ombre de Jean-Maurice Agnolet?
À Jean-Maurice Agnolet, il est toujours avec elle. À l'Assemblée, il est à ses côtés. C'est tout juste s'il lui tient pas le stylo. Ils sont très proches, intimement, et en tout cas, au niveau des affaires, il est aussi très proche d'elle.
Quand est-ce que vous décidez, finalement, d'aller voir la police?
Alors c'est surtout ma mère, évidemment, qui s'en préoccupe. Elle contacte la police. Vous dire la date exacte, ça m'est bien difficile, sinon que c'est dans le courant du mois de novembre 1977. Et on lui répond, ce qui est assez classique d'ailleurs, c'est qu'Agnès est une personne majeure, comme je vous l'ai dit, elle a 28 ans, et donc elle est libre d'aller où elle veut. Alors on déclare cette disparition, mais la police nous dit, écoutez, nous, on peut rien faire. Et voilà, elle voyageait beaucoup, elle va peut-être revenir. Donc au départ, on n'est pas du tout pris au sérieux, on n'est pas écouté.
Je suppose que vous allez essayer de voir où est-ce qu'elle est. Vous
faites alors moi, je vais faire deux choses. D'une part, je vais aller chez elle, l'appartement que je connais, ma mère le connaît aussi. Je vais me rendre compte qu'il y a toujours sa moto devant l'immeuble, mais il n'y a plus sa voiture. La porte est fermée, je sonne, il ne se passe rien. Quand on téléphone, on tombe sur un répondeur qui est bientôt plein. Et voilà, on est dans l'ignorance totale, en fait. J'ai fait une seconde chose. Comme j'étais très lié avec elle, je connaissais tous ses amis, aussi bien hommes que femmes. Et donc, dans le courant novembre 77, j'ai commencé à contacter tout le monde en leur disant, est-ce que vous avez des nouvelles d'Agnès? Est-ce que vous avez des nouvelles d'Agnès? Et personne n'en avait.
Est-ce que vous savez à ce moment-là qu'elle est dépressive et qu'elle a fait des tentatives de suicide?
Je sais à ce moment-là qu'elle a fait des tentatives de suicide, puisque les deux tentatives de suicide interviennent au mois d'octobre 77. Donc, je sais qu'elle est en état de faiblesse. Je l'ai eu au téléphone, elle m'a rassuré. Et voilà, c'est tout ce que je sais, en fait. Elle m'a dit que ça allait s'arranger, que c'était un mauvais moment et qu'il fallait que je la laisse tranquille. Et j'ai respecté, et je le regrette, et j'ai respecté ce qu'elle m'a demandé.
Alors, on va avancer dans le temps. Mars 78, 4 mois après la disparition, là, il y a une découverte d'une lettre d'adieu, c'est ça?
Alors, finalement, la police accepte de prendre cette disparition au sérieux. Et la première chose qu'ils font, c'est aller ouvrir la porte de son appartement avec un huissier, un commissaire de police, enfin comme on fait d'habitude. Et là, ils découvrent un appartement visiblement inhabité depuis plusieurs mois, avec un mot très étrange mis en évidence sur son bureau, qui est un mot écrit de sa main, qui, de mémoire, il est écrit la chose suivante. Mon chemin est fini, je m'arrête là, Je veux que Maurice s'occupe de tout. Et bon, bah, la police pense qu'en effet, il s'agit d'un mot d'adieu qui signe un départ définitif. Nous, on est très surpris de ce mot, mais bon, on prend l'information. On n'a pas le choix et on ne sait pas quoi en tirer, sinon que ça ressemble fortement à un départ définitif. J'ai été interrogé par la police qui m'ont demandé ce que je pensais de la disparition de ma sœur, de ma mère, de leur conflit au sein du palais de la Méditerranée, enfin toutes questions que les policiers étaient en droit de se poser. Et moi, je leur ai dit que j'avais quand même des soupçons envers Maurice Agnolet, qui était son compagnon, et qui en plus n'avait pas l'air très inquiet. Alors que tout le monde s'inquiétait de sa disparition, lui, il n'avait pas l'air inquiet. Et pour leur prouver, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, je lui téléphone. Donc j'ai eu téléphoné, je crois que j'étais au Quai des Orfèvres à ce moment-là. Les policiers n'avaient pas la possibilité de m'enregistrer, puisqu'ils n'avaient pas de commission rogatoire ni de matériel. Donc, nous avons parlé, il m'a pris très rapidement, on a parlé 54 minutes. De temps en temps, les policiers me posaient des questions, m'envoyaient des petits papiers pour poser des questions, notamment sur ses moyens de subsistance, parce que lui, il prétendait qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, toujours. Il avait même une expression, c'est « elle est allée se mettre au vert ». Tu comprends, avec tous les problèmes qu'elle a eu avec ta mère, elle est allée se mettre au vert, donc il faut pas s'inquiéter. J'ai essayé de savoir où elle était, aucune information, il ne me donnait aucune information.
Alors tout de suite, Maurice Agnolet fait partie des suspects.
Oui, parce que c'est vrai que nous, un peu, on le désigne. C'est-à-dire qu'on est quand même très surpris, on est tous inquiets, sauf lui. Qui continue à ricaner et qui dit qu'il faut pas qu'on s'inquiète. Donc forcément, on a des doutes. Voilà, on a des doutes. Nous, ce qu'on pense à l'époque, c'est qu'il sait où elle est.
Votre mère aussi a une conviction.
Ma mère a une conviction un peu plus forte que la mienne parce qu'elle connaît bien Agnolet, qu'elle ne l'aime pas du tout, qu'elle suppose que c'est un homme dangereux, pervers, et donc elle le soupçonne de manière, je dirais, beaucoup plus grave que dans mon cas. Donc les policiers enquêtent. La disparition, c'est novembre 77. L'ouverture de son appartement, c'est mars 78. Et l'enquête, elle va aller de mars 78 jusqu'à la fin de l'année. Et peu à peu, il y a en effet des éléments très inquiétants qui vont être mis en valeur par les policiers et qui fait que de plus en plus, on se demande ce qu'a fait Agnolet avec Agnès. Il va être mis en garde à vue. Je crois que c'est fin 1978. Et alors là, il a une attitude très curieuse, car il refuse de répondre. Alors normalement, la garde à vue à cette époque, c'est 24 heures. Et pendant les premières 24 heures, il répond, soit il répond pas, soit il prend une heure pour répondre, et surtout, il prend la précaution de répondre par écrit. C'est-à-dire qu'il demande un papier et un crayon, de manière à pouvoir écrire les réponses qu'il va faire. Et de temps en temps, parce que moi j'ai lu après les PV d'audition, par exemple, il y a une question, je ne sais plus laquelle, où il a mis une heure à répondre non. Donc voilà, il élude. Et d'ailleurs, dans cette garde à vue, il y a quelque chose quand même d'extrêmement troublant pour nous comme pour les policiers, c'est que au départ, il nie toute relation intime avec Agnès. Il dit que c'est sa cliente. Et que donc, bon, bah, sa cliente, elle fait ce qu'elle veut, il n'est pas à son chevet. Et ça, ça c'est vraiment, c'est très troublant.
Et il va fournir aussi un alibi.
Au fur et à mesure que l'enquête de la police avance, ils arrivent à déterminer la date à partir de laquelle plus personne n'a de nouvelles, plus personne ne l'a vue. Et cette date se situe au cours du week-end de la Toussaint 1977. Donc, lorsqu'il va être interrogé sur son emploi du temps. À ce moment-là, lui, il va dire, écoutez-moi, à ce moment-là, j'étais en Suisse, à Genève, avec ma maîtresse, qui s'appelle Françoise Losseur. Voilà, j'étais en week-end et je suis rentré à la fin du week-end, c'est elle qui est venue me chercher à l'aéroport. Et voilà, moi, j'ai rien à déclarer, je suis totalement étranger à la disparition d'Agnès, à l'absence d'Agnès, et moi, en tout cas, ce week-end-là, j'étais à Genève. Et Françoise Losseur va donc confirmer cet alibi en disant « Oui, en effet, nous sommes partis à Genève, en voiture. Ensuite, j'ai dû rentrer un peu plus tôt parce que ma fille était malade. J'ai laissé Maurice à Lyon parce que il avait une réunion, je crois, de la Ligue des droits de l'homme. Et donc, il est parti à Paris. Et ensuite, je l'ai récupéré à l'aéroport de Nice lorsqu'il est rentré à Nice. »
À ce moment-là, vous n'avez plus d'espoir de retrouver Agnès, votre sœur?
Vous savez, on a toujours l'espoir. Moi, Agnès, elle a disparu. Elle avait à l'époque une Range Rover crème. Et moi, pendant de longues années, sincèrement, à chaque fois que je voyais une Range Rover crème, j'essayais de la rattraper. Si elle était dans l'autre sens, je faisais demi-tour. Et j'essayais toujours de savoir si c'était pas elle. Donc, beaucoup d'inquiétudes, mais impossible de se dire qu'on ne la reverra jamais plus ou même qu'elle a été assassinée. C'est quelque chose que je n'imagine pas.
La justice a avancé. Maurice Agnolet est, à l'époque, on dit comme ça, inculpé d'homicide volontaire.
Ma mère a beaucoup de doutes, nous également. Donc, le jour où il est inculpé, en effet, d'homicide volontaire, on espère que la police va l'interroger plus fortement qu'avant et qu'on va avoir des réponses à toutes les questions qu'on se pose.
Et pourtant, cette piste va faire flop.
Cette piste va faire flop des années plus tard, puisqu'il va obtenir un non-lieu. Dans un arrêt de non-lieu qui est assez incroyable, parce que le juge dit que bien qu'il ait été la seule personne à savoir qu'Agnès avait disparu, bien qu'il soit le seul à pouvoir en profiter, rien ne démontre qu'il est précisément lié à sa disparition, et donc il bénéficie d'un non-lieu, surtout parce qu'au moment de la disparition d'Agnès, il a un alibi. Il est à Genève.
Pour votre mère, c'est une terrible désillusion, ce non-lieu.
Alors, c'est en effet une terrible désillusion, mais comme ma mère est une acharnée, évidemment, elle fait appel. Enfin, je veux dire, la lutte continue. Mais c'est vrai qu'on n'arrivera jamais à rien, et il aura bénéficié d'un non-lieu en 1986. Ce qui fait que, a priori, y a plus rien à faire, quoi.
Que décide de faire votre mère à ce moment-là, puisque c'est elle maintenant qui va prendre le taureau par les cornes et mener le combat? Qu'est-ce qu'elle décide?
Elle a travaillé par elle-même, elle a engagé des détectives, elle a fait des enquêtes, elle a fait des recherches, elle a remué ciel et terre pour essayer de connaître la vérité. Elle a absolument remué ciel et terre pour avoir des infos, pour savoir quelque chose, et ça s'est à chaque fois conclu par un échec.
Dans ces années-là, où est Maurice Agnolet?
Alors, Maurice Agnolet, il a fini par se marier avec Françoise Losseur, cette fameuse maîtresse qui avait reconnu qu'il était avec elle à Genève. Et comme elle est partie s'installer au Canada, il est également parti s'installer avec elle au Canada. Et c'est vrai que l'affaire a fait beaucoup de bruit en France parce que, voilà.
On arrive au début des années 2000 et là, coup de théâtre, le dossier va être rouvert.
Cette affaire est repartie toujours grâce à l'obstination de ma mère, qui n'a jamais lâché le morceau. L'expression est peut-être un peu vulgaire, mais c'est le cas. Elle était accrochée à ça. Elle a passé, depuis 77, elle a passé toute sa vie et tout son argent à essayer de connaître la vérité. Donc, elle avait engagé un détective qui a donc beaucoup travaillé sur le dossier. C'était un homme assez compétent. Et tout d'un coup, il s'est surtout intéressé à cet alibi, puisque finalement, c'est grâce à l'alibi qu'il avait obtenu un non-lieu. Et donc, on est à la fin des années 90. Il s'est même rendu à l'hôtel de la Paix, où ils étaient censés avoir passé une nuit. Et à la fin des années 90, il a quand même réussi à récupérer les fiches de l'hôtel, les fiches d'inscription à l'hôtel. Et il a pu constater qu'il y avait le nom de Françoise Losseur, mais qu'il n'y avait pas le nom de Maurice Agnolet. Or, dans le document fait par les policiers, il était écrit que, en effet, ils déclaraient tous les deux qu'ils étaient à Genève, et le policier avait écrit, et cet élément a été vérifié. Mais vérifié comment? En tout cas, pas en regardant le registre, puisqu'il n'était pas fait état du registre, et que nous, on avait réussi à le récupérer. Donc à ce moment-là, ma mère a décidé de porter plainte contre les policiers, avec lesquels, pourtant, nous avions d'excellents rapports, parce qu'ils étaient assez convaincus de la responsabilité, je dis pas de la culpabilité pour l'instant, mais je dis de la responsabilité d'Agnolet dans la disparition d'Agnès. Et elle a déposé plainte contre eux, considérant qu'ils n'avaient pas fait tout ce qu'ils devaient faire. Et puis, elle a aussi mis la pression sur Françoise Losseur en déposant une plainte, parce que là, on avait vraiment le doute sur le fait que cet alibi était peut-être un alibi de complaisance. Et là, je dirais que c'était un quasi-miracle. Françoise Losseur a été convoquée chez un juge à Nice. Elle habitait dans les îles, dans les Caraïbes à ce moment-là. Et elle a dit, oui, je reconnais, en effet, j'ai fait un faux témoignage, par amour, à la demande de Maurice Agnolet. Il n'était pas avec moi à Genève, à l'Hôtel de la Paix. Nous devions en effet partir ensemble. Et au dernier moment, il m'a lâché. Et je suis parti avec une de mes amies. À ce moment-là, Maurice Agnolet s'est installé au Panama. On le sait, il s'en cache pas. Il s'est installé au Panama. Donc, il est question de le faire revenir, évidemment. En tout cas, le juge veut l'entendre. Et dès qu'il apprend ça, Maurice Agnolet saute dans le premier avion. Et revient, clamant sa parfaite innocence, sa parfaite bonne foi. Et donc, il revient en France pour être entendu par les juges. Et au juge, il dit simplement que il confirme qu'il était à l'Hôtel de la Paix à Genève, le 2 novembre 1977. Et il dit que Françoise Losseur ment effrontément parce qu'ils sont en bagarre, ils ont divorcé. Et donc, c'est simplement une histoire de divorce qui tourne mal et d'un règlement de compte à l'intérieur d'un couple. Mais pour lui, ça n'enlève strictement rien au fait qu'en effet, il n'était pas là pendant qu'Agnès, au moment où Agnès a disparu. Au début 2000, on sait qu'il va passer aux assises. Il y a un juge, le juge Roland, qui s'occupe du dossier, qui a repris tout le dossier comme un acharné, comme ma mère, exactement pareil, et qui essaye, comme il le dit, de refermer toutes les portes par rapport à toutes les pistes qui ont été évoquées, parce que il y a l'histoire de la piscine d'Agnolet, mais on a aussi beaucoup dit à Nice qu'elle avait été enterrée sous la nouvelle piste de l'aéroport de Nice, qu'elle était dans un des piliers du pont de l'autoroute, qu'elle était dans une propriété qui appartenait à un type assez sulfureux qui s'occupait d'handicapés et où elle aurait fait un séjour et finalement il l'aurait enterré sur place. Enfin, des pistes, il y en a eu énormément. Et le juge, ce qu'il voulait faire, lui, c'était en effet refermer toutes les portes possibles pour essayer de déterminer où on en était.
Est-ce qu'on connaît à ce moment-là l'histoire du fameux livre de la Pléiade ? Racontez-nous ça.
Alors, les livres de la Pléiade, c'est arrivé dans les années 80. Ça, c'est un témoignage. C'est le témoignage d'une avocate, ancienne associée, collaboratrice de Maurice Agnolet, qui savait que à chaque événement important de sa vie, il achetait un livre de la Pléiade. Et il mettait une annotation sur la page de garde. Donc, par exemple, il allait faire un gros procès, il plaidait dans un procès important à Aix-en-Provence, il achetait un livre de la Pléiade, il mettait une annotation. Il arrivait quelque chose d'important à ses enfants, enfin voilà, des événements importants, il notait. Et donc, elle a fait ce témoignage, et elle a dit que il lui semblait, en effet, avoir vu dans quelques livres de la Pléiade qui étaient dans sa collection, des annotations qui ressemblaient fortement à des références à Agnès ou au Palais de la Méditerranée. Et donc, ces livres ont été saisis. Et là, sur une cinquantaine de livres, il y en a quatre qui sont absolument effarants, parce qu'à chaque fois, il y a une date précise, avec le jour, le mois, l'année, et puis il y a une indication. Et les indications, c'est toujours un peu sibyllin, mais enfin, on arrive à comprendre. Par exemple, il parle souvent, il utilise les initiales PM. PM, c'est Palais de la Méditerranée. Donc, par exemple, il dit, il écrit 30 juin 77, PM, amitié. 30 juin 77, c'est la date à laquelle Agnès a voté contre ma mère pour la destituer. Il y a un autre livre qui est daté du 4 octobre 1977, où il y a écrit 4 octobre 77, le bateau ivre. Et 4 octobre 77, c'est la date de la première tentative de suicide de ma sœur Agnès. Donc c'est extrêmement singulier. Et le dernier livre est daté du 2 novembre 77 et il y a écrit PM, Palais de la Méditerranée, liberté. Et c'est quand même très troublant qu'à cette date où il n'y a rien de particulier sur le Palais de la Méditerranée, la seule particularité de cette date, c'est la date à laquelle on n'a plus aucune trace d'Agnès. Et il écrit « Liberté ».
Qu'est-ce qu'il va répondre, Maurice Agnolet, à ses annotations ?
Maurice Agnolet a l'habitude de répondre n'importe quoi, n'importe quelle question. Et donc là, il va répondre que ce sont des annotations qui sont exclusivement liées à la vie de l'auteur du livre. Donc il y a Monterland, il y a Gide et deux autres. Et donc pour lui, voilà, ça n'a aucun intérêt, c'est juste lié à la vie de l'auteur. Donc, et les dates, bon, bah, c'est des dates comme ça, mais rien de particulier.
Alors, premier procès de Maurice Agnolet, Palais de Justice de Nice, on est en 2006. là, ça va pas très bien se passer pour la famille Leroux.
En effet, le procès va pas très bien se passer parce que Maurice Agnellet est très habile. Il ne répond à aucune question. Il répond toujours à côté. Il ricane beaucoup. Tout ça n'est pas sérieux. Il n'arrête pas de dire « je n'ai pas tué Agnès Leroux ». Il n'arrête pas de dire non plus « si ça se trouve, elle est en vie ». « Si ça se trouve, elle est en voyage ». Enfin, voilà, toutes sortes de choses qui, visiblement, mettent suffisamment le doute aux jurés pour qu'à la fin, je dois dire, à notre grande surprise, et puis c'était pas non plus, je crois, dans la logique de la manière dont se passait le procès, mais à la fin, en tout cas, il est acquitté. On est absolument effondré. En plus, il faut savoir que le verdict d'acquittement a eu lieu le jour de l'anniversaire de ma mère, ou la veille. Elle est née un 21 décembre. Donc on est absolument effondré. D'autant qu'on ne peut rien faire, puisque en tant que partie civile, nous n'avons pas le droit de faire appel. Donc on espère que le parquet va faire appel et qu'il va y avoir un second procès. Alors en effet, 5 jours après ce premier procès, le parquet décide de faire appel. C'est un grand soulagement pour nous. Et donc on repart au combat à peu près un an plus tard, à Aix-en-Provence. On se retrouve devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et il est condamné à 20 ans de prison. Pour assassinat. Donc, c'est-à-dire que c'est conforme aux réquisitoires de l'avocat général et c'est aussi conforme à notre conviction.
Mais là, donc, c'est la satisfaction et en tout cas le soulagement pour votre mère en tout premier lieu qui mène ce combat depuis des années et des années. Puis là, il va y avoir la douche froide parce que cet arrêt de la cour d'assises va être cassé pour un vice de forme finalement. Cette décision est annulée, la décision d'Aix-en-Provence. On repart donc vers un troisième procès. Je suppose qu'à ce moment-là, votre mère, qui est déjà âgée, c'est un véritable traumatisme. Elle a peut-être le sentiment que cette fois, c'est fini, fichu.
Elle est totalement effondrée. Et je dirais même que ça l'a encore plus atteint que cela et qu'elle commence à, je dis pas à défaillir, mais elle perd pied. Elle perd pied parce qu'elle ne comprend absolument pas comment c'est possible, en fait. Et donc là, les choses sont extrêmement difficiles pour elle. Et à partir de ce moment-là, on va être obligé beaucoup de la protéger parce que elle est plus capable de s'occuper du dossier. C'est très difficile. C'est des moments très difficiles pour elle. Et donc, c'est un peu moi qui prends sa place. Enfin, ça fait déjà quelques années que j'ai repris un peu les choses en main parce que la pauvre est très âgée et qu'elle est surtout très fatiguée par cet incessant combat. Et donc là, on se prépare comme on peut à aborder ce troisième procès qui aura lieu donc en 2014, à savoir 37 ans après la disparition d'Agnès. On y va parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on va pas renoncer maintenant avec tout ce qu'on a fait. Donc on y va en étant surtout extrêmement inquiet parce qu'on se dit 37 années après les faits, quel souvenir restera-t-il aux témoins? Et en plus, on suppose que Maurice Agnellet, qui est à l'époque assez âgé déjà, puisqu'il a plus de 75 ans, va jouer le vieux monsieur poursuivi par la famille d'Hystérique.
Justement, à quoi ressemble-t-il Maurice Agnellet dans ce box des accusés?
Il est habillé tout en noir, il a une longue barbe, et en fait, il ressemble à un vieux monsieur, il est courbé, il parle avec une voix quasi chevrotante, et on a tout d'un coup, alors que c'était un homme plutôt virevoltant, ricanant, comme je vous l'ai dit, on a affaire à un vieillard qui ferait presque de la peine si on savait pas exactement qui c'était. Il est arrivé comme un vieillard, et 2 jours après, il était absolument déchaîné, et on retrouvait le personnage qu'il avait été 35 ans plus tôt.
Alors, ça part comme un procès classique, mais ça va être tout sauf un procès classique, avec un incroyable rebondissement. Racontez-nous.
Les premières semaines du procès se passent plutôt mal pour Agnellet, qui est assez déchaîné, qui coupe la parole, qui ricane. Enfin, bon, visiblement, ça se passe pas bien pour lui. On reste néanmoins très inquiet, mais ça se passe pas bien pour lui. Et puis arrive le début de la quatrième semaine. Un lundi matin, on rentre donc dans la cour d'assises de Rennes. Nous sommes accueillis, comme d'habitude, par la greffière qui vient vers nous et qui nous dit « Écoutez, je devrais pas vous le dire, mais préparez-vous à quelque chose de dur. Je me souviens lui avoir répondu, écoutez, ça fait 3 semaines que c'est dur déjà, donc je vois pas ce qui peut nous arriver de pire. Et en effet, la cour rentre et on remarque que le président, Dari, qu'on a en face de nous depuis 3 semaines, donc si vous voulez, on connaît son visage, ses attitudes, on trouve qu'il est pas bien, il y a quelque chose qui va pas, ça se voit tout de suite. Et en fait, dès que la cour est installée, il nous annonce que il y a un nouveau témoignage qui vient de lui parvenir. Il s'agit du fils de Maurice Agnolet, Guillaume, qui vit à Chambéry et qui a décidé la veille, c'est-à-dire le dimanche, de faire un témoignage spontané auprès d'un magistrat du tribunal de Chambéry. Procès-verbal qui a été transmis au président Dary et dont il nous fait la lecture. Et dans ce texte, on apprend que Guillaume Agnolet déclare qu'il est convaincu que son père a tué ma sœur Agnès par un certain nombre d'éléments, de choses qu'il a appris quand il était jeune, et que là, il a décidé donc de témoigner. Donc on est quand même effondré, si vous voulez. Il faut pas imaginer que lorsque c'est arrivé, on s'est dit « ouais, super, ça y est, on le tient, on va l'avoir ». Pas du tout. Parce que d'abord, pour la première fois, on visualise la mort d'Agnès. Et ça, c'est la première fois que ça nous arrive, donc c'est pas évident à vivre, émotionnellement, bien sûr. Et puis, la seconde chose qui devrait pas nous toucher, mais qui finit par nous toucher, c'est un fils qui accuse son père d'être un assassin. C'est un truc totalement étonnant, dingue, et on est bouleversé. Et en tout cas, on se dit pas, youpi, on a gagné. Ça, c'est sûr. On voit Guillaume Agnolet, que je connais de vue, puisqu'il était là aux 2 premiers procès, puis il était très virulent, en plus, contre nous. Et on voit, donc, cet homme, sans haine, avec une émotion visible, mais il livre, en tout cas, un témoignage d'une grande force, et surtout qui nous paraît d'une grande crédibilité. Parce que, encore une fois, on était quand même inquiet de ce témoignage. Et le président lui demande de venir à Rennes et de refaire ce témoignage, enfin en tout cas d'accepter de répondre aux questions de la cour d'assises, ce à quoi Guillaume Agnolet accepte, et nous le verrons, nous savons qu'il sera là le mercredi après-midi, en personne, pour être interrogé par la cour d'assises et les avocats. Le président, évidemment, une des premières questions qu'il lui demande, c'est « Pourquoi témoignez-vous ? » Et là, Guillaume Agnolet a cette réponse tout à fait étonnante, où il dit « Le secret tue plus que la vérité. » Le témoignage de Guillaume Agnolet a fini par enlever les doutes de ceux qui pouvaient sans doute en avoir. Hein. Mais c'était extrêmement violent. Et puis ce qui était violent en plus, c'était que la seule réponse d'Agnolet vis-à-vis de son fils, c'est de lui dire il est malade, le pauvre, il faut le soigner, il a toujours été comme ça. Enfin, montrant un mépris à l'égard de son fils... qui était vraiment suspect, enfin comme tout le reste, quoi. De toute façon, Agnolet, il a été décrit comme un pervers narcissique, mais c'est quelqu'un qui n'a aucun affect pour personne, y compris pour ses enfants. Et ça, quand on voit ça de près, je vous assure, ça fait peur.
Condamnation, 20 ans de prison, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ?
On a quand même la sensation, surtout avec le témoignage de son fils, là, en effet, on a l'impression que c'est fini. C'est vraiment terminé. On sait qu'il ira en cassation. On se doute qu'il fera à nouveau appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Sincèrement, pour nous, c'est terminé. On s'est dit, de toute façon, familialement, quoi qu'il arrive, pour nous, c'est terminé. Donc, s'il va en cassation, on prendra quand même un avocat pour se défendre. Et si, par hasard, il y a un 4e procès, on n'ira pas. Mais on n'y croit pas. On pense que c'est vraiment la fin et c'est comme ça qu'on la vit.
Et d'ailleurs, il n'y aura pas de 4e procès.
Il n'y aura pas de 4e procès et nous ne saurons jamais où est le corps d'Agnès. Je pense que c'est la seule victoire d'Agnolet. Et lorsque le verdict a été rendu à Rennes, il était en face de nous, il nous a regardés, il nous a fait un petit signe de la main, genre au revoir ou je vous ai bien eu.
Votre mère n'était pas à ce dernier procès, trop souffrante. Vous avez pu lui dire ce qui s'est passé ?
J'ai pu lui dire, oui, j'ai pu lui dire. Et elle était soulagée, mais elle était déjà très faible. Elle est décédée 2 ans après. Mais bon, je pense qu'elle est décédée avec le sentiment du devoir accompli.
Vous continuez, Jean-Charles Leroux, aujourd'hui, à chercher votre sœur ?
Non, non, non. Moi, ça fait quand même un certain temps que j'ai fait mon deuil, si vous voulez. On a vite compris qu'Agnolet l'avait supprimé, surtout quand on s'est rendu compte qu'il avait vidé son compte en banque quelques semaines après sa disparition. Mais ça, on l'a appris de longs mois après. Et là, donc, moi, je me suis obligé à faire mon deuil. Donc, je ne cherche plus ma sœur. Je sais que ma sœur a été assassinée. Je sais qu'on ne retrouvera jamais son corps. Et on vit tous avec ça.
Vous venez d'écouter un épisode des Voix du Crime consacré à l'affaire Jean-Maurice Agnolet avec Jean-Charles Leroux, le frère de la victime. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur rtl.fr. Et c'est Nathalie Renoux qui vous accompagnera dans le prochain épisode des Voix du Crime. Il y sera question de l'affaire Béatrice Matisse. La Voix du Crime qui nous racontera ce fait divers est elle aussi un personnage clé de l'affaire. À bientôt.